pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Goligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va consacrer notre émission à la répression de mouvement, du mouvement contre l'enfouissement des déchets à Bure. Je crois que tu vas pouvoir nous dire un petit peu.
Oui. Alors, oui, on va parler particulièrement de cette terreur judiciaire qui s'exerce sur les opposants et les opposantes à la poubelle nucléaire de Bure en projet depuis le début des années 80. Cette terreur est organisée par le procureur Glady de Bar-le-Duc et le juge Le Fur. Celle-ci a été orchestrée à la suite de plusieurs perquisitions de vaste envergure, hein, puisque la maison de la résistance à Bure a été envahie par plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de gardes mobiles, de spécialistes du renseignement, etc., de gendarmes qui étaient spécialisés la physionomie, la reconnaissance des personnes. Évidemment, à cette occasion, il y avait eu, on vous l'avait signalé à de nombreuses reprises, il y avait eu des saisies nombreuses d'appareils, de téléphones, d'ordinateurs, etc. Mais aujourd'hui, on va en revenir quelque chose d'assez inouï à la suite de ces perquisitions, c'est qu'il y a eu, en même temps, il y avait eu la maison de la résistance, il y avait eu des appartements perquisitionnés dans d'autres villages, dans plusieurs villages, et je crois qu'il y avait une dizaine de personnes d'arrêtées, mises en garde à vue, entre 50 et 60 heures de garde à vue. On peut dire du jamais vu. Il faudrait remonter assez loin dans l'histoire pour retrouver des situations identiques, peut-être par rapport, on l'avait déjà signalé, au mouvement aux Irlandais de Vincennes, par exemple, ou par rapport aux Basques, mais ça, on l'avait déjà signalé à de multiples fois. Et là, ce soir, on va retrouver à l'antenne l'avocat du mouvement, Étienne Ambroselli, parce qu'en fait sa situation en lui aussi, également a évolué, c'est-à-dire qu'il était témoin assisté dans cette vaste nasse judiciaire, et c'est cet été qu'il a été justement inculpé à la suite de son audition avec le juge Le Fur. Alors tout d'abord, on va l'entendre à Bar-le-Duc. Ça, c'était l'année dernière, au mois de juin. Donc c'est une émission qu'on avait faite à l'époque, le 26 juin, à la sortie du tribunal de Bar-le-Duc, où des avocats étaient venus était venu le soutenir pour réclamer la restitution de son matériel qui avait été saisi dans son cabinet, c'est-à-dire son ordinateur qui était heureusement bouclé, mais on pouvait se poser des questions à ce propos. Et donc des avocats du syndicat des avocats de France qui étaient venus le soutenir.
Il faudrait juste rappeler qu'en fait, l'avocat de la lutte a été également perquisitionné.
Mais c'est ce qu'on vient de dire. Oui.
Tu as parlé de multiples perquisitions à la Maison de la Résistance et dans des appartements autour de Bure, mais Étienne Ambroselli, qui a son cabinet à Paris, a été perquisitionné également à Paris avec son matériel saisi, effectivement.
Tout à fait, c'est ça. Donc on va retrouver ce moment-là pour une trentaine de minutes et tout de suite après, on aura Étienne Ambroselli au téléphone pour lui demander aujourd'hui dans quelle situation il se trouve puisque celle-ci a évolué et l'impact que ça provoque chez non seulement les militants et militantes mais aussi chez lui qui est complètement intégré à cette lutte, à cette bataille, quoi.
Stratégie de l'État, c'est bien évidemment la violence policière, mais aussi la violence judiciaire. Et la semaine dernière, on vous parlait de la belle manifestation à laquelle on avait participé à Bar-le-Duc. Et malheureusement, au cours de la semaine, il y a eu des événements assez importants, puisque il y a eu la plus grande vague de perquisitions qui s'est jamais produit sur le mouvement d'opposition à CIGEO. Et il y a eu 200 gendarmes qui ont participé à des perquisitions et à des arrestations. Alors, tout ça s'est préparé un peu rapidement parce que, évidemment, il a fallu réagir à cette vague. Et plus particulièrement, ce qui est assez inédit et assez incroyable, c'est que parmi ces perquisitionnés, ces interpellés et ces placements en garde à vue, l'avocat des opposants à CIGEO, maître Étienne Ambroselli, bien connu de ceux qui participent à la lutte et de ceux qui fréquentent les prétoires, a été interpellé, placé en garde à vue et finalement placé sous statut de témoin cité. Il passait au tribunal cet après-midi et notre camarade Jean-Noël est allé aux nouvelles et est allé s'assurer de son soutien. Et ça vient juste de se terminer. Jean-Noël, t'es là, tu nous entends correctement?
Ouais, je suis là, ouais. Ben, écoute, t'as déjà dit beaucoup de choses, mais
ouais, on développera,
il
ouais,
faut réinsister sur effectivement l'ampleur de cette opération, qui est quand même assez inédite. Cette fois avec moins de spectacles, puisqu'il n'y avait pas BFM TV, il n'y avait pas... non moins... percutante parce que et sans doute essayant un effet traumatisant sur les militants et les militantes puisqu'il y a eu 11 perquisitions, je crois que tu l'as cité. Mm-hmm. Et effectivement Étienne Ambroselli a été perquisitionné à son cabinet d'avocat à Paris. Donc je ne sais pas si ça avait été évoqué, si les auditeurs, auditrices le savent, mais dans l'histoire de la justice en France, c'est quand même assez inédit. Ça s'est produit quelques fois par rapport à la lutte des Basques, à la lutte au Pays Basque, assez récemment, il y a quelques années peut-être, mais c'est bien tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Il y a eu une très forte solidarité de la part des avocats. Les avocats, le syndicat des avocats de France s'est mobilisé pour soutenir Étienne, parce que là, il y avait le procureur de la République de Bar-le-Duc a dépassé les limites a dépassé les limites probablement du droit. Alors bon, l'affaire n'est pas totalement terminée, mais néanmoins, il y a le syndicat des avocats de France qui avait fait un communiqué de soutien assez important que vous pouvez retrouver facilement. Et là, il y avait une dizaine de personnes du SAF qui étaient là. Il y avait également le délégué du bâtonnier de Paris qui, lui, a fait un travail de fond sur le dossier. Et avec une question fondamentale qui est parce qu'en fait, lui, il est spécialisé sur, depuis les années 2008, sur les procédures de ce type de perquisition, à suivre les procédures de perquisition d'avocats, notamment, quand ça se produit, ou d'autres, peut-être de politiques. Et donc, il est là pour voir si ça se passe dans les règles de l'art, entre guillemets.
Alors, Jean-No, je te coupe parce que je voudrais bien spécifier aux auditeurs qui s'étonneraient qu'on s'étonne. Là, tu es en train de décrire la perquisition. Effectivement, l'avocat, le domicile et le cabinet ont été perquisitionnés. Mais, alors ça, c'est déjà arrivé, hein, aussi dans des affaires dites de banditisme. Mais si tu vas certainement y revenir après dessus, c'est que Étienne a été placé en garde à vue, quoi.
Voilà. Oui, il a été passé en garde à vue pendant près d'une cinquantaine d'heures.
C'est ça.
Et donc en fait là, grâce à la plaidoirie du bâtonnier, enfin du délégué du bâtonnier, et il y a eu une très longue discussion avec le bâtonnier. Faut-il le rappeler qu'il a plaidé l'extrême gravité de l'action du procureur, de saisir tous les documents, les documents, les ordinateurs. En fait, ça pose le problème de l'impossibilité pour Étienne Ambroselli de continuer à travailler purement et simplement. Et ça pose le problème de la confiance aussi vis-à-vis des clients. Hein, toute la confiance, parce qu'il est question du secret de la défense, et de pouvoir, bon voilà. Et donc tout ça, on va l'évoquer peut-être plus longuement. Et donc l'essentiel, c'est que après toute l'après-midi, là, il a été décidé. Il y a eu un délibéré. La juge a pris la décision. Apparemment, elle a été à la hauteur. Hein, je pense qu'il le dira mieux que moi. Et elle a décidé de restituer tout le matériel, ordinateur, téléphone et documents. Donc là, si tu veux bien évoquer un peu ta situation, Étienne est avec moi et ouais. on va l'évoquer.
Alors bonsoir Étienne, ouais, bonsoir, bravo, bon courage, et te dire que on a tous été assez hallucinés par ce qui t'est arrivé, et à défaut d'être avec toi ce soir, on te manifeste évidemment notre soutien, ainsi qu'à tous les autres camarades qui ont été embarqués. Mais on va faire du droit, on va faire une demi-heure de droit sur les Grégor. D'abord, comment tu vas, et puis donc comment ça s'est terminé cet après-midi, quoi?
Ben, ça s'est vraiment très très bien terminé. Donc ça, c'est vrai que c'est une des leçons, en tout cas, de cette sombre affaire, c'est que ça vaut le coup de se battre, voilà. Mmh. Malgré la tentative, effectivement, de m'empêcher de travailler, de porter complètement et radicalement atteinte au secret, enfin à la confidentialité, au droit de la défense, au droit au recours, enfin voilà, à tous ces principes qui fondent quand même une démocratie, c'est quand même très, c'est quand même courageux, et je l'en remercie, parce que c'était pas gagné. Bon, je remercie également de tous les soutiens qui sont venus et qui m'ont dépassé amplement. De toute façon, cette histoire me dépasse totalement. J'ai vécu tout ça effectivement sidéré, pour ainsi dire. Un peu de loin, pour ainsi dire. Puis comme j'étais complètement à l'arrêt, qu'on m'avait complètement supprimé et puis qu'en plus j'étais enfermé entre quatre murs, c'est vrai que j'ai pas vécu, si tu veux, les choses de l'extérieur, mais de un peu enfermé, quoi. Donc j'ai pas trop eu écho de l'ensemble, mais en tout cas aux audiences, j'ai eu un soutien massif à la fois du barreau, hein, parce que c'est lui c'est le représentant du bâtonnier de Paris qui a défendu ses droits fondamentaux, et c'était pas mon conseil, hein, c'était dans la procédure prévue qu'il puisse intervenir en tant qu'auxiliaire de justice pour défendre le droit de la défense, justement, le droit de la confidentialité, etc. Et donc il l'a fait magnifiquement, Et après, j'ai été soutenu par le Conseil national des barreaux, le syndicat des avocats de France, qui était aussi présent, et puis également en représentant du barreau de, enfin, une avocate du barreau de Meuse, et donc enfin de Nancy, de Strasbourg. Enfin voilà, c'était vraiment assez beau, en tout cas, que dans le cadre de cette lutte de Bure, et pour que, y compris dans cette lutte qui effectivement remet en cause un projet d'État, de l'État nucléaire, on puisse faire respecter ces principes fondamentaux. Voilà, donc je suis soulagé, même si tout continue, puisque je reste quand même témoin assisté dans le cadre d'une instruction très lourde et qui va durer des années. Donc voilà, rien n'est terminé, mais bon, j'ai l'impression que, si tu veux, j'étais parti pour vivre un chemin de croix. Cette station.
La première station, voilà. Il y a eu un Simon de sirène qui t'a aidé.
Qui me démontre que peut-être ce n'est pas une issue inéluctable, fatale, de votre regret, on ne pourrait rien. Et qu'on serait obligé de regarder avec à la fois une tristesse face à une sorte de tragédie. Mais bon, en même temps, il y a vraiment, moi je suis enthousiaste toujours, hein, de ce qui se passe ici. Moi, je suis revenu, voilà, il y a un nombre d'amis que j'ai pu retrouver ici et qui voilà, avec qui j'aime énormément. Et puis même dans la cellule, c'est vrai que il y avait un graphe qui m'a beaucoup aidé. Il y avait après des co-détenus, mais anciens, et qui avait écrit un tag qui je t'ai apostrophe avec un cœur. Ça paraît un peu bête et un peu niais, mais je trouvais ça assez beau qu'il y ait une sorte de transmission d'ondes lumineuses, en tout cas, voilà, entre gens enfermés, et que je reprenais à mon compte pour les suivantes et les suivants. Voilà, on n'est pas seul, en fait, même si on est au fond d'une cellule enfermé entre quatre murs, on est quand même, on est nombreux, en tout cas, à porter quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'on constate là. Puis même, il y a un effet positif de l'ensemble, c'est qu'il y a énormément d'avocats qui ont enfin compris qu'il se passait quelque chose à Bure, et qui vont nous rejoindre à la fois pour les recours juridiques et pour la défense pénale des militants. Et ça, c'est un effet extrêmement positif de l'ensemble.
Voilà. Ah ben, c'est vraiment à ça que ça doit servir, ces moments de répression, pour justement amplifier et retourner les armes comme une sorte de jujitsu, quoi. Alors évidemment, t'es encore en procédure, donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Je te laisse toute maîtrise pour ta liberté de parole. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Comment ça se fait que il y a des avocats qui sont arrêtés, placés en GAV, en GAV, et qu'il y a cette série de perquisitions? Est-ce que tu as pu savoir le pourquoi du comment, en fait?
C'est
délicat d'en parler comme
non,
ça.
Non, non, mais je te parlerai pas, si tu veux, de ce qu'il y a. Enfin, de toute façon, moi, je sais pas, je ne sais pas.
Oui.
Si tu veux, moi, je suis aussi stupéfait que vous de ce qui arrive. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, l'ampleur de ces multiples perquisitions à répétition, hein, la maison de résistance, c'est la troisième, je crois. Enfin, c'est quand même sidérant. Montre bien qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des informations. Il s'agit de casser une lutte et de construire une fantasmagorie d'une organisation machiavélique, obscure, et voilà, le côté obscur de la force, quoi, disons, qui n'attend qu'une chose, c'est de trouver des bribes d'éléments à droite ou gauche pour aller monter un scénario, une histoire, et voilà. Et c'est vrai que bon, beaucoup de personnes font un lien avec l'affaire de Tarnac. Je pense qu'on peut dire que c'est le nouveau dossier Tarnac, c'est-à-dire qu'on fait un ennemi intérieur, voilà, on construit un ennemi intérieur, mais c'est vrai qu'en ciblant l'avocat de cette cause antinucléaire, c'était pas très très malin de leur part, parce que c'est vrai que aller me dresser un tableau, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'était intéressant en même temps. Moi, je veux dire, mais s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur raisonnement et considérer que la lutte antinucléaire est de fait, parce que c'est un intérêt essentiel de l'état nucléaire, c'est-à-dire cet état dans l'état, et que donc on n'a pas le droit d'avoir une pensée critique, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de faire de recours, on n'a pas le droit de se défendre lorsqu'on est effectivement poursuivi, parce que de toute façon c'est un crime de lèse-majesté, et que c'est donc une association de malfaiteurs, bah écoutez, moi je veux qu'ils aillent jusqu'au bout. Et je me défendrai et on sera, mais pas 6, 7, et là on me reproche d'avoir plein d'avocats, mais j'en aurai 100, on sera 1000, voilà. On sera 1000 dans la salle d'audience à défendre le fait de pouvoir s'exprimer dans un pays libre. Et ce sera des audiences qui dureront pas 1 heure, 2 heures, 10 heures, 15 heures, mais 3 jours, 15 jours, voilà. Et moi je plaiderai autant que possible et des heures et des heures, et je suis intarissable sur le sujet. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je suis prêt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais, à mon avis, si confiant. Je pensais être en détention provisoire, moi. Moi, j'étais parti pour
faire
pour
tout
ça,
le stage. Et...
Ah ouais, moi, je pensais qu'on y était. Mais je pense qu'ils vont attendre que l'autorisation soit déposée, que éventuellement l'autorisation soit accordée, pour, à ce moment-là, mettre l'arrêt, enfin, soi-disant, hein, mettre un coup d'arrêt terminal à cette espèce de lubie. Qu'ont certains à vouloir s'opposer à leur projet. Donc ça, je pense qu'ils sont en train d'engranger, de mettre la pression, et puis un jour, ils voudront débouler, et puis, bah, écoutez, on sera prêts, et en tout cas, ça permettra peut-être à ce moment-là, effectivement, qu'on comprenne l'enjeu. En tout cas, à chaque fois qu'ils nous tapent dessus, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que ça donne une ampleur au message qu'on veut porter, et que là, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'État nucléaire qui soit un État démocratique. Voilà. Et ça, je crois que c'est la leçon de ce qu'on peut voir dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, c'est incompatible foncièrement avec une démocratie. Et ça, je suis pas le seul à le dire, même Corinne Lepage, qui est pas spécialement anarchiste, le dit également. Donc voilà, donc il n'y a pas de possibilité de faire des projets aussi délirants et aussi aussi catastrophique, voilà, dans un État démocratique.
Alors, t'as lâché le mot, hein. C'est effectivement cet outil magnifique du droit et de la police, notamment judiciaire, qui est l'association de malfaiteurs, qui a permis cet arrestations. Alors, on va essayer de préciser un petit peu ce qui s'est passé. Donc, en 2017, alors cette association malfaiteur, elle porte sur 3 actes qui auraient été commis et qui ont été commis en 2017. Une manifestation qui a eu lieu le 15 août, qui a été déclarée illégale et interdite. Des dégradations qui auraient été commises, pardon.
On peut pas interdire une manifestation en France.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais
elle ne l'a pas été. Et en fait, ce qui est possible, et c'est très subtil, et d'ailleurs c'est intéressant, et ça a fait l'objet de plein de discussions dans l'histoire, mais c'est vrai que l'attroupement est autorisé.
Okay.
Il ne devient illégal qu'après sommation.
D'accord.
Et la sommation très réglementairement fixée, avec un protocole qui doit être absolument et rigoureusement respecté. Donc, l'attroupement en lui-même, ne peut pas être atteint. On est dans une démocratie, le droit de réunion, le droit d'expression est absolument protégé. Donc là, la question est simple. Moi, je veux dire, dès qu'on parle de manifestation interdite, c'est juste absurde. Et d'ailleurs, on a bien vu, ils ont essayé de faire un pari lors du travail, ils ont fait marche arrière, tellement ça faisait des holos, des résistances, même dans le Figaro. Donc, si eux, même si la droite s'insurge contre l'interdiction de manifester, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est effectivement grave. Donc, on ne peut pas interdire une manifestation. Non, en fait, dans cette instruction, il y a tout, il y a boire et à manger, ils mettent tout, et il y a des faits qui remontent à bien plus loin, et puis il y en a d'autres qui doivent remonter, puis ils en rajouteront probablement. Donc, c'est une sorte de grosse marmite où ils vont essayer de monter justement cet ennemi intérieur, de créer cet ennemi intérieur, cette prétendue organisation obscure qui n'existe que dans leur esprit. Voilà.
Et précisons aussi tout de même que lors de cette manifestation du 15 août, il y a un jeune, il y a Robin, qui a été très gravement blessé à son pied, quoi, qui a perdu son pied.
C'est pour ça que ça, voilà, assez ouais. Incroyable que, si tu veux, ce qu'on me reproche, c'est de circuler et de manifester le 15 août. Enfin, je veux dire, le 15 août, franchement, s'il y a une manifestation où il devrait pas être très fier, c'est peut-être celle-là. Donc,
on est d'accord.
Moi, je veux bien qu'on parle du 15 août, mais bon, voilà, et puis. Bref, j'ai pas parlé de.
Ouais. Et il y a aussi des dégradations qui auraient été commises à l'écothèque, et puis Moi, je lis les accusations. Hein. un début d'incendie volontaire sur l'hôtel-restaurant. Et ça, donc, c'est ça qui forme, on va dire, le fond pour l'association de malfaiteurs.
Non, pas forcément pour tous. Enfin, bon, moi c'est la manif du 15 août.
Voilà. D'accord, ok.
Il y a quelque chose qui leur paraît pas compatible avec le fait d'exercer le métier d'avocat que d'être en manifestation à Bure. Bah, il va falloir qu'ils s'habituent, parce que c'est la, je sais pas combien de thèmes que je fais. Donc, ils en feraient probablement dans l'avenir. Donc, on a le droit de manifester quand on est avocat. Il va falloir qu'ils s'habituent. Hein.
Oui, c'est ça. Et surtout, cette association-là, ce caractère associatif et ce qui est mis en avant par la police et par l'instruction, c'est que ce caractère d'association de malfaiteurs, elle permet la répression de ceux qu'on désigne comme étant participants à tous les stades, hein, de la préparation, et même on peut dire qu'elle autorise la poursuite d'individus sans qu'il soit possible de déterminer, on va dire, leur implication, quoi, la participation personnelle de chacun d'entre eux. En fait, on crée un sac, on va dire, qui s'appelle association de malfaiteurs, et dedans on met qui on veut, quoi, on met voilà, les trucs qu'on veut, quoi.
Donc c'est pour ça que si tu veux, moi ça m'inquiète énormément, parce que c'est vrai que c'est une infraction qui est quand même extrêmement lourdement sanctionnée et qui nécessite pas énormément d'éléments matériels pour être caractérisée. Donc c'est vraiment la boîte de Pandore, hein. Là si on part sur ce type d'infraction, c'est vrai que là c'est quand même c'est très risqué, enfin c'est très
oui,
bon, enfin voilà, donc c'est aussi une façon de dire, bah attendez, voilà, vous risquez si vous participez à la lutte anti-CIGEO à quelque titre que ce soit d'être impliqué dans une association de malfaiteurs, et ça veut dire que être militant anti-CIGEO c'est être un malfaiteur. Et ben moi je suis désolé jusqu'au bout, et je subirai toutes les conséquences qu'il faudra. Je refuse ce schéma complètement absurde. Voilà. Enfin, pour moi, c'est impensable d'aller réfléchir comme ça. Et en tout cas, moi, j'assume parfaitement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans cette lutte de Bure, et je continuerai tant que j'en ai la force.
C'est bien. Et alors, pour refaire encore un peu de droit, parce que justement, ouais, vas-y, je t'en prie. On va dire que c'est quand même une approche qui est en rupture totale avec habituellement les conceptions du droit. C'est-à-dire que le droit, normalement, il est fondé sur la responsabilité individuelle et sur le refus de condamner l'intention, quoi.
Exactement.
Donc là, on passe vraiment à tout à fait autre chose. Il va falloir refaire tous les cours de droit en fac si c'est plus l'intention et la responsabilité individuelle, quoi.
Bah ouais, mais ces infractions ont tendance justement à faire des espèces de dérogations camouflé à ce principe d'individuation de la responsabilité pénale. Ces infractions sont extrêmement dangereuses. C'est comme groupement en vue de commettre des infractions. Voilà. C'est une infraction qui commence à être utilisée à Paris pour les manifestations où, ben voilà, même si vous n'avez rien fait, vous étiez là et d'autres gens ont fait, donc vous êtes responsable. Voilà. C'est comment dissuader les gens de venir même aux manifestations, parce que il suffit qu'il y ait une pierre de lancer et puis vous faites partie de l'association de la manifestation, donc vous faites partie d'une association organisée en vue de ça c'est dans leur esprit, mais ça ne correspond évidemment à aucune réalité. Donc c'est une manière de dissuader la liberté d'expression, quoi. Voilà, et puis toute opposition à des projets d'État. Ouais.
Bon, ben, très bien, merci. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Étienne. Ouais, repasse-nous, Jean-Noël, et à bientôt. À bientôt, et bon courage.
Oui.
Donc, je sais pas, t'as pu entendre ce qu'on disait. Hein. On parlait justement de cette histoire d'association de malfaiteurs et de cette narration là qui était en train d'être écrite, c'est-à-dire de la constitution.
Oui,
c'est ça, l'échafaudage d'une organisation mafieuse. Et quand je lis les témoignages des camarades qui ont été interpellés et qui ont été relâchés, alors en plus pour certains après 50 à 60 heures de garde à vue, hein, parce qu'on est sur mafieux, on est sur bande organisée, association de malfaiteurs, donc on peut monter jusqu'à 96 heures de garde à vue. T'imagines un peu comment tu prends ça dans les genoux. C'est que les questions qu'ils posent, les flics, les gendarmes, c'est mais alors qui est-ce qui décide, pourquoi est-ce que les manifestants pacifistes condamnent pas les actions un peu plus armées, et ce qui est plus qu'une des camarades, c'est qu'ils essayent de faire rentrer les gens dans des cases d'une organisation où il y aurait des chefs, en fait, qui pensent et qui dirigent, et puis des espèces d'exécutants, quoi. Totalement à l'opposé de ce que peut être un mouvement, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour eux, ils ont plutôt tendance à obéir et à avoir des chefs qui pensent pour eux, Donc il y aurait des penseurs et il y aurait d'autres, on va dire le vulgus pecum qui s'en serait là pour agir quoi. Mais là là on a quand même un sacré truc. Et puis nous on était ensemble à la manif de quel cynisme quand même, parce que faire ça le mercredi après la manif de samedi, hein, Jean-Noël, c'est d'un cynisme quand même.
Mais le procureur s'est expliqué dans la presse, il paraît, c'est répandu dans la presse, je crois même à FR3.
D'accord.
Pour justifier que non, ils avaient attendu après la manifestation pour faire ça. Mais c'est très bien. Après, on peut se dire aussi une chose, c'est que c'est pas le procureur, il est aussi en relation avec le parquet général de Paris et l'État, hein, le ministère. Peut-être qu'il pense pas aussi tout seul. Et qu'il y a, on sait que la machine des nucléocrates est un État dans l'État, et que ça peut venir aussi de très haut, quoi. Mm-hmm. Les décisions pour ces décisions-là, quoi.
C'est ça. Oui, je te redis.
Voilà, on en est là.
Je te redis quelques exemples de questions là que j'ai sous les yeux, qui auraient été posées par les flics. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à la Maison de la Résistance? Tu vois, est-ce que cette action, l'incendie volontaire, la tentative d'incendie volontaire, malheureusement, de l'hôtel-restaurant Ibis, bien connu pour il y a quelques dizaines d'années, héberger des sans-papiers et faire bien. Ah bon, enfin, on va pas.
En l'occurrence, ce fameux hôtel, c'était sur une dalle de carrelage. C'est pareil, c'est monté de toutes pièces.
Ouais.
Comment dire ? Oui, non, c'est loin d'être un incendie. C'est vraiment des ridicules, quoi.
C'est dérisoire.
C'est monté en épingle.
Est-ce que ça avait été préparé ? Ouais. Bon, et quand même, on va dire une bonne nouvelle, parce que l'après-midi, même si l'instruction et le parcours judiciaire d'Étienne et des autres camarades n'est pas terminé, hein, il l'a dit lui-même, cet après-midi, ça s'est plutôt bien terminé, quoi, puisque.
Oui. Vas-y. Alors ça, c'est intéressant pour l'ensemble, pour tout le monde, parce que là, c'est quand même le procureur, le parquet qui prennent une sacrée leçon, quoi. Ils prennent une sacrée leçon de droit et ils vont être obligés d'en tenir compte. Et vis-à-vis de ses propres collègues, de la juge, par exemple, il va faire peut-être un peu moins le malin, entre guillemets, c'est-à-dire... on avait l'impression dans les audiences précédentes que c'est lui qui faisait, à lui tout seul les jugements, quoi. Mmh. La façon dont il pérorait non seulement à son poste, mais dans l'ensemble du tribunal, quoi. Et là, la juge a pris une décision qui s'imposait, et ça fait bizarre, parce qu'on en est à se dire, malgré tout, heureusement qu'il y a quand même quelques remparts. C'est pas habituellement notre registre, mais il y a quand même quelques remparts nécessaires à ce que on puisse se défendre un minimum, quoi.
Et puis on répète encore une fois le cynisme, hein, c'est-à-dire que Étienne, j'allais dire systématiquement. Il plaide systématiquement pour défendre les gens à Bar-le-Duc, au tribunal de Bar-le-Duc. Donc c'est quand même, une commission rogatoire comme ça, une perquisition à 200 personnes, ça se prépare pas en 15 jours. Hein. Faut quand même un minimum, quoi. Donc ça veut dire que pendant que Étienne fait du droit et plaide en défendant des gens, derrière le procureur Glady, c'est son nom, hein, c'est pas une insulte. Hein.
Ouais.
Le procureur Glady, il prépare ses petites affaires et lui dit, en le regardant dans les yeux, mais allez-y, maître, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 2 mois, vous êtes au ballon, quoi. T'imagines un peu l'état d'esprit de ces gens-là, la duplicité, et ce qu'il faut avoir quand même de sacrément dans des sphères quand même d'altitude assez énorme, quoi. Enfin bon.
Ouais.
Mais attention, parce qu'on remarque aussi que ce caractère d'association de malfaiteurs, il est visiblement utilisé de plus en plus pour des faits, on va dire, relatifs au mouvement social, quoi. Là, ça commence à devenir...
Ce qui a été évoqué par plusieurs avocats tout à l'heure, ouais, effectivement.
Par exemple, hein, bon, faire deux secondes, hein, histoire de cette qualification. Hein. En 83, elle est supprimée du code pénal. Ça sera rétabli en 86 par le gouvernement Chirac. Ça revient depuis. On parlait de Tarnac parce que c'est celle qui était la plus connue. Mais on peut parler aussi, pour donner un autre exemple, hein, de ce que peut être une association de malfaiteurs. En mai 2016, il y a 19 personnes à Rennes qui ont été mises en examen sous ce chef d'accusation après leur interpellation, puisqu'elles avaient introduit de la mousse explosive dans des bandes de validation des titres de transport pour protéger lors du cadre de la loi travail, de la protestation contre la loi travail, pardon, c'était pas leur boulot de mettre de la mousse dans les titres de transport, c'était une action directe pour saboter le métro de Rennes. Et ça, c'était passé sous l'inculpation d'associations de malfaiteurs, quoi. Donc, quand même, voilà. Alors, visiblement, si ça paye pas, ça fait toujours peur. Parce que, bon, c'est des interpellations avec le PSIG, hein, quand même, donc l'élite de la gendarmerie. Et puis, en même temps, on en profite pour faire toutes les fiches, toutes les photos, etc., etc., quoi.
Justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Au niveau de tous les documents qu'il avait, surtout au niveau informatique, est-ce qu'il est sûr que les flics n'ont pas fait des copies, des ponctions, etc.
Bah, écoute, ça, on peut pas en être sûr. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si j'ai parlé de la procédure et de l'intervention d'un délégué du bâtonnier, c'est que ce délégué là est cet avocat est un avocat, est un pénaliste, et que ils ont conscience qu'il faut vraiment protéger, il faut être présent pour protéger le secret de la défense, pour protéger tous les documents, parce que certainement qu'ils doivent imaginer que tout est manipulable, sinon, comme tu le soulignes, on peut subtiliser des documents, en introduire d'autres et tout ça. Donc là, tout a été rendu, remis sous scellé.
D'accord.
Et cet avocat-là, il est spécialisé dans ce domaine, sur ce domaine particulier, parce qu'on pense par exemple à l'affaire de Vincennes. C'est pas tout à fait pareil, parce que c'est pas une, mais c'est quand même une perquisition où l'État s'était permis d'introduire dans un logement des armes et faire croire que c'était les Irlandais de Vincennes qui étaient dépositaires d'armes. En fait, il s'était avéré que c'était faux. Et bien là, c'est un peu la même chose et les mêmes risques qui pourraient advenir, quoi. Et c'est aussi pour ça que sans doute il y a pas mal d'avocats qui ont réagi.
Oui.
Il s'agit d'une menace grave à toute possibilité de défense. Voilà, donc c'est plutôt un grand soulagement de ce côté-là.
Ben oui, en plus, comme tu dis, ce que la juge dit, c'est que l'avocat Ambroselli, maître Ambroselli, a le droit de faire son travail, et pour ça, il doit récupérer tout son matos, quoi. Mais bon, en tous les cas, c'est un message qui est clairement envoyé, comme je te dis. Dans le meilleur des cas, il y avait pas de suite, alors qu'il y a des gens qui sont mis en examen quand même pour association de malfaiteurs, au moins 3, si je compte bien, 4. Ça envoie quand même un message vachement fort, quoi. On est là dans des procédures qu'on pouvait voir ou qu'on peut voir encore aujourd'hui en Turquie ou en Espagne contre les Basques. Ça, c'est un grand classique, hein, de dire que la défense, elle fait partie du complot, quoi. Alors quand ça se passe en Turquie ou en Espagne, c'est du post-franquisme ou de l'autoritarisme.
Ouais.
Mais quand ça se passe en France, tu vois, hein, c'est pas pareil. Hein.
Bah, ça nous renvoie loin dans l'histoire, et je vous remémore le fait que, par exemple, cette semaine, on invite Steve Bigham, qui lui-même était un avocat et toujours un avocat, avant de quitter les États-Unis, et en fait on a voulu le liquider parce que il était l'avocat des Black Panthers. Ça, c'est pour faire une transition avec la journée de jeudi. Mais lui, quand il a eu l'information de cette perquisition chez un cabinet d'avocats parisien, il était sidéré quand même. Et ça lui rappelle quand même de sinistre mémoire ce qu'il a pu vivre aux États-Unis dans les années sordides de la CIA dirigée par Hoover, quoi.
Ah ouais, et puis voilà. sans entrer dans un délire, hein, c'est juste des éléments qu'on donne pour que les auditeurs puissent bien percevoir un petit peu ce qui s'est passé. Une des personnes qui a été placée en garde à vue raconte que bon bah le psy vient chez lui, défonce la porte, hein, évidemment ces gens-là ne frappent pas jamais. le gendarme et le policier quand il fait des perquisitions, il faut qu'il y ait du bruit, quoi, tu vois, il adore faire ça lui aussi, c'est le veto, donc il est obligé de casser, quoi. Donc évidemment la gueule par terre, les note, et il va se rendre compte qu'il y a le PSIG, il y a des gendarmes enquêteurs qui sont là, c'est ceux qui relèvent les trucs, le PSIG est là pour le spectacle, et puis il affirme qu'il y a des individus qui étaient là, qui se sont pas présentés, et dont la fonction était assez peu identifiable et identifiée, pas d'uniforme, du civil, qui prenait des photos avec des lunettes, etc. Bon, on peut très largement supposer que c'est une partie de la police politique, hein. Et puis, lors de sa garde à vue, ce camarade raconte bien que finalement, assez rapidement, on est passé sur sa participation aux faits qui lui étaient reprochés, hein, à savoir les deux actes qu'on a parlé là, mais vraiment de l'ordre de le renseignement, quoi. Qui prépare les manifestations, comment ça se passe, etc., etc. Alors bon, s'ils veulent, faut leur dire, hein, il y a la presse révolutionnaire et la presse anarcho-communiste, hein, il y a courant alternatif, t'es pas la peine d'interpeller les gens pour aller à 6h du matin pour avoir ce type d'informations, quoi. On a l'impression qu'ils sont incapables de penser, ils le veulent pas de toute façon, mais ils sont pas capables de penser à un mouvement social, quoi. Des gens qui se réunissent et qui s'organisent, quoi. Enfin bon, voilà.
Ouais. Je crois qu'on va en rester là parce que nous on a encore de la route à faire et ben, je vous souhaite une bonne fin d'émission.
Très bien, de toute façon on va continuer là-dessus, et on parlera d'autres choses. À bientôt et une fois encore nos amitiés aux camarades là-haut. Voilà, salut Jean-No.
D'accord, salut.
Salut.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des quarts de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, vos cérébrales et fleurs de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer sur les pelouses interdites hors des institutions sacrées. Sacré nom de Dieu, c'est meilleur. Essayez pour voir et puis dites. Divorcez-moi, châtrez-moi le cœur et puis le reste aussi, quel bonheur. Et mangez-les avec des frites, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour m'être évadé de ces villes qui puent, qui font du bruit, qui meurent d'avoir laissé aux créanciers la rage de n'être pas payé, d'avoir perdu toute ma bile. Le long des routes qui vont ailleurs, bordées de cannabis en fleurs. Et puis d'en être revenu, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez. Être différent, c'est un crime. Être noir ou jaune ou pédé, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça rend jeune et beau tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché. Vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur. celle qui me pousse à l'intérieur, leur cérébral et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur.
C'était François Béranger.
Oui, bonsoir Étienne. Alors, tu connaissais François Béranger ?
Un petit peu, ouais.
Un petit peu.
Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Merci.
D'accord. Ouais. Bon, ben, bonsoir et content de t'avoir à l'antenne.
Bah, merci. Ouais.
Et bah, déjà, d'ores et déjà, est-ce que tu veux réagir un peu à tout ce que tu en viens d'entendre, de te remémorer, quoi, en fait, ce moment ?
Bah, je suis assez assez surpris de mon enthousiasme.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que bon, j'étais content d'être sorti, j'étais content d'avoir récupéré mon matériel, etc. Mais je mesurais pas peut-être combien finalement la peine c'est le procès aussi. Quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un certain nombre de personnes que je ne peux pas voir, qui ne peuvent pas me voir, parce qu'il n'y a pas un contrôle judiciaire auquel ils sont soumis, qui leur interdit de me voir, donc ça revient exactement la même chose, parce qu'en fait, il faut pas qu'on se voit, et c'est quand même des personnes que j'aime beaucoup, et ça fait long, en fait, mine de rien, ça fait déjà plus d'un an, et puis c'est quand même quelque chose qui plane, et qui se rappelle à vos bons souvenirs une fois par an, notamment lors de ces auditions auxquelles vous êtes convoqués, et lors de moi, j'y suis allé après les violettes, c'est juste après les violettes. Là, là, tu sais où.
Faut que tu parles bien près de ton micro.
Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Et c'est les violettes, bah, c'est ce festival qui a eu lieu début août et qui permet à plein de gens de découvrir les lieux, d'échanger, il y a des conférences, tout ça, c'est passionnant. Alors, c'est vrai que c'était assez fatigant. Et je suis arrivé, c'était juste après, et je suis arrivé un petit peu.
Tu parles de ton audition
voilà, le 14 août dernier.
Le 14 août dernier, ouais,
voilà, c'est ça. J'ai été auditionné par le juge d'instruction qui est en charge de ce dossier d'instruction, là, de l'association d'affaires. Et donc j'y suis allé, puis en plus ça était en plein été, donc j'ai pas pu y aller avec Maria Rouvière.
Ouais.
Ça va ? Et puis en fait, ce tribunal, je connais, ce juge aussi, enfin bon, c'est presque, ça devient une démarche comme d'autres, quoi, que je fais dans le cadre de ce tribunal, de mes activités. Mais c'est vrai que là, lui, il avait beaucoup bossé, il bosse beaucoup, quoi. Enfin, c'est des gens, c'est des dizaines de personnes qui bossent à plein temps, enfin beaucoup en tout cas, qui accumulent des milliers de pages.
Le procureur Glady et toute sa bande, là, juge Le Fur et les gendarmes.
Ouais, c'est surtout le juge de Fur là qui est en charge de l'instruction, et tous les gendarmes et tous les gens qui sont effectivement qui sont sous ses ordres, j'allais dire, dans le cadre de cette instruction. Et ils accumulent des milliers de pages et ils travaillent et c'est le dossier, j'allais dire, de leur carrière. Donc tout ça, ils le prennent avec beaucoup de sérieux. Et moi, c'est vrai que tout ça me paraît plus théâtral. Théâtralement politique que véritablement sérieux. Donc lui, il avait 10 pages de questions, tout ça était très, très, très laborieux, quoi, très long. Et moi, je n'ai rien à déclarer, quoi. Enfin, tout ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc tout ça, finalement, a été assez fatigant. Parce qu'en fait, en plus, c'est intervenu aussi à d'autres personnes qui sont entrées maintenant dans la station de malfaiteur, une autre personne qui avait été contrôlée, pas beaucoup de personnes régulièrement sont contrôlées, il y a un contrôle d'identité, si tu veux, dans les rues.
Oui.
Là, c'est une espèce de harcèlement permanent, mais là, il se trouve que tout à coup, un contrôle d'identité finit par devenir une garde à vue en rentrant dans le procès de la station de malfaiteur avec interdiction, de paraître dans la Meuse. Donc, si vous voulez, c'est comme si ça pouvait tomber sur n'importe qui, parce que en plus le casting est improbable, on ne comprend absolument pas comment ils peuvent imaginer que les 10 ou 11 qui sont élus fassent partie une association de malfaiteurs quelconque, il y a des gens qui ne se connaissent même pas, enfin tout ça est totalement obscur,
ouais,
et absurde. Mais c'est vrai que ça laisse une espèce de chape de plomb très lourde finalement sur au-dessus de nos têtes et qui dure. Voilà, donc en fait tout ça est lourd dans la durée, quoi. Et je pense que c'est tout à fait typique de ce type de procès, c'est que c'est d'abord en raison de leur durée même une peine en soi, c'est-à-dire que les gens sont interdits de venir dans les lieux, sont interdits de se rencontrer. Ça complique quand même beaucoup le fait de vivre avec les amis que qu'on aime bien. Enfin, tout ça c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Et c'est vrai que j'en prends la mesure, même si bon après j'essaye de passer à autre chose et je continue à vivre normalement. Mais quand même, c'est assez bien foutu pour ça, quoi. Enfin, je trouve ils savent bien ce qu'ils font dans cette espèce de harcèlement. De harcèlement qui plane comme ça, aussi bien dans les contrôles permanents sur place, dans la militarisation du territoire, que dans cette espèce de grande procédure qui plane au-dessus de tout le monde et qui...
Une procédure, je te coupe, mais une procédure c'est qui repose sur la loi du 3 juin 2016, hein, sur le crime organisé et le terrorisme, et qui donc qualifie le mouvement antinucléaire, en l'occurrence, qui l'assimile à ce type de crime, quoi, entre guillemets.
En tout cas, c'est les mêmes règles de procédure, voilà. et c'est les mêmes dispositions. Enfin, c'est dans le même chapitre du code de pénal, c'est-à-dire ce sont des infractions contre les intérêts de l'État, de la nation, enfin voilà, donc on est face effectivement dans un chapitre assez politique, on peut dire, et assez dramatique de l'échelle des infractions pénales, c'est clair. Donc il y a une disproportion qui est complètement sidérante, ça c'est clair, je trouve qu'il y a un moment où il faut se dire aussi que tout ça n'est pas surprenant. On ne peut pas s'attaquer à l'état nucléaire sans imaginer en subir les conséquences un jour ou l'autre, surtout si l'opposition a quelques succès. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça qu'on nous fait payer. C'est que bon, on a donné quand même aussi des nouvelles à cette lutte et on a enrayé le démarrage des travaux qui avaient été prévus en catimini en 2016.
Oui.
C'est quelque chose qui font payer. Donc moi, alors, je ne suis pas surpris, mais j'en mesure l'ampleur.
Alors attends, s'il te plaît. Justement, quand on avait préparé cette émission, tu m'avais dit au téléphone que tu ressentais vraiment quelque chose de lassant, quoi, dans cette logique de l'État. Comme tu viens de le dire, c'est sa stratégie, quoi, qu'en fait tu ne voulais pas rentrer dans ce théâtre et que tu préférais sortir de l'étau et en quelque sorte se décaler, quoi, prendre un peu de distance.
Bah oui, puisqu'en fait on est pris dans une sorte de piège, et c'est le propre du procès pénal, c'est qu'on vous place dans un théâtre, un jeu théâtral qui est bien rodé. Et dans lequel la marge de manœuvre est quand même assez limitée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce piège, voilà, de cet étau dans lequel l'État veut se servir, j'allais dire, de vous comme exemple pour restaurer son autorité, sa souveraineté, spectaculaire, j'allais dire presque. Un peu, c'est du spectacle pour réaffirmer son emprise sur les vies, sur les corps, sur les etc. Donc il a effectivement le pouvoir de faire ça, en rentrant chez vous, en pouvant vous enfermer, j'allais dire, à tout moment, en arrêtant le cours de votre vie, à tout moment. Il a le pouvoir de ça, c'est clair, et il s'en prive pas lorsqu'il voit ses intérêts remis en cause, ou en tout cas contestés de façon un peu trop visible. Voilà, donc c'est vrai que il faut arriver à décaler ce jeu théâtral, et surtout en comprenant l'enjeu, parce qu'en fait tout est fait. Moi je suis sidéré par exemple des 3 heures de questions qui ont été posées le 14 août. Il n'y en a pas une qui parle de nucléaire. Voilà, tout est fait pour éviter le sujet qui nous occupe. Voilà. On fait tout pour déplacer l'enjeu, justement, qui, voilà, on s'exprime, on s'oppose effectivement à quelque chose, mais on va tout faire pour éviter de parler de ce qui nous occupe. Et c'est un peu le but aussi, d'ailleurs, de ces process, c'est à chaque fois nous empêcher de dire, d'incarner ce qu'on souhaite incarner. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de décaler le discours. Moi, je vais pas parler des heures, de savoir si en marchant le 15 août 2017 dans la rue de Bure, ça voulait dire que j'organisais et participais à cette manifestation en me portant en tête de cortège, en sollicitant l'attention des forces de l'ordre en vue d'une diversion afin de permettre à différents manifestants de se munir de projectiles par la suite lancés à direction des forces de l'ordre. Donc là, enfin, je discute pendant des heures pour savoir si en fait j'étais bien dans le cadre d'une organisation où je donnerais, pour ainsi dire, des consignes, où je ferais des espèces de diversions machiavéliques pour permettre à d'autres de prendre des pierres qui sont à leurs pieds pour pouvoir... Ah bon. Des scénarios, si vous voulez, rocambolesques, complètement sidérants, vraiment, mais auxquels, voilà, il faut prendre les choses finalement assez sérieux, parce que un an après, il y croit encore. C'est-à-dire que un an après, il me met en examen, c'est-à-dire il me déplace de
témoin assisté.
Témoin assisté à mise en examen. C'est-à-dire que ça renforce l'idée que je suis effectivement coupable de faire partie d'une association de malfaiteurs. Parce que je me suis mis dans une situation où j'aurais fait une diversion en organisant spécialement la manifestation pour pouvoir permettre d'attaquer les forces de l'ordre. C'est complètement hallucinant, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de parler de ça, tout simplement parce que tout ça, c'est absurde. Et par contre, moi, je veux tout à fait dire que je suis dans cette manifestation parce que j'ai le droit d'y être. Et parce que je pense que c'était important d'y être le 15 août, et que je pense que c'est important de dire que ce projet est mortifère, qu'il est dangereux, et que malgré tous les intérêts sous-jacents économiques et industriels, etc., étatiques qu'il peut y avoir derrière, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc si c'est être un malfaiteur, encore une fois, moi je veux bien être un malfaiteur, il n'y a aucune difficulté, mais dans ce cas-là qu'on parle des choses, c'est-à-dire qu'on parle de la réalité de ce qu'on me reproche, c'est-à-dire de m'opposer au projet CIGEO, c'est-à-dire de m'opposer à l'État dans sa version nucléaire. Et ça, il n'y a pas de difficulté, moi je l'assume. Mais s'il faut que faire de la prison parce qu'on s'oppose à l'État nucléaire, eh ben je ferai de la prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il n'y a pas de problème. Je vais pas m'inventer tout à coup favorable à l'industrie nucléaire et à cette catastrophe annoncée qu'est le projet CIGEO. Non, je ne suis pas favorable à ce projet. Je pense que c'est vraiment une énorme erreur que de faire ce projet. Voilà, donc je préfère aller jusqu'au bout de ce processus. Mais je trouve que c'est dommage que l'État n'ait comme seule réponse que de nous envoyer des GF4 pour broyer les pieds des manifestants et de nous perquisitionner, de nous mettre en garde à vue et de nous considérer comme des malfaiteurs. Voilà, je trouve ça dommage.
Etienne, on va être obligé, on est en fin d'émission.
Pardon.
Non, mais écoute, on était très contents de t'avoir à l'antenne. On espère quand même que tu as une bonne défense, parce que ça serait quand même très embêtant, justement, qu'il y ait des suites défavorables pour toi.
Peut-être ou peut-être pas, on ne sait jamais de quel bien peut naître un mal, etc.
J'aurais beaucoup aimé parler de la lettre d'appel que tu as faite, justement pour demander appel à cette inculpation, mais on verra ça une autre fois, j'espère.
Exactement.
À très bientôt. Okay. Merci encore. Ne raccroche pas, j'arrive.
Il faut changer les lois, c'est tout, quoi.
Allez, c'était les Régors, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi-libertaire.l'autre.net, sur le blog Le Chat Noir 51 et sur Internet.